Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On est très très heureux de vous retrouver avec bienveillance, bien sûr, vous nous connaissez. On prend quand même un malin plaisir à vous réveiller.
Nous sommes le mercredi 26 janvier. Bonne fête à toutes les Paulines, toutes les Paulettes, toutes les Paules. Et on souhaite aussi, par la même occasion, un très joyeux anniversaire au comédien Jean-Paul Rouve qui fête ses 55 ans.
Offensive, je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais voilà, là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive.
Jean-Paul Rouve avec Poulvorde, Benoît de son prénom, bien sûr, le savoureux couscous, ça c'est Jean-Paul Rouve dans le film Podium, et cette solution offensive.
Et la solution offensive, c'est aussi ce qu'agite Vladimir Poutine avec ses quelques 100 000 soldats massés à la frontière ukrainienne. Là, ça fait beaucoup moins rire, d'autant que ce scénario explosif a pris de l'épaisseur ces dernières heures. Les mises en garde américaines, françaises et allemandes se multiplient comme une réponse à ce bruit de bottes russes de plus en plus audible. Sommes-nous aux prémices d'une guerre de grande ampleur, d'une guerre de grande intensité à seulement 3 heures de vol de Paris?
Conflit qui aurait des conséquences dramatiques, notamment l'arrêt de l'approvisionnement de gaz russe, 40% des besoins européens.
Voilà pourquoi Emmanuel Macron prône la désescalade. La diplomatie a-t-elle encore une chance? On en parle à 6h10 avec Marie Dumoulin, grande spécialiste de la Russie. Ombline, ce matin, vous allez aux côtés de dessinateurs de BD nous faire prendre de la hauteur.
Aviez-vous remarqué à quel point la montagne est l'un des décors de prédilection de la bande dessinée, et ce depuis l'origine au 19e siècle? La montagne, un lieu d'aventure rempli de mystères initiatiques complexes à dessiner quand ses petites pentes sont enneigées, ou ses grandes pentes. C'est ce que veut montrer cette exposition présentée en ce moment à Megève. Elle s'appelle « Ligne de crête, la bande dessinée sur les sommets ». Et nous serons avec le commissaire de l'expo à 5h45.
Enfin, on terminera avec votre partition, comme d'habitude.
L'album le plus important de Simon & Garfunkel et surtout le dernier. Retour à 6h20 sur le monumental Bridge Over Troubled Water, sorti le 26 janvier 1970.
Vous avez l'essentiel du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Alors le dicton du jour, Sainte-Paul, sec et beau, remplit greniers et tonneaux. Verdict, docteur.
Alors, faut surtout
alors
réfléchir.
Pas de problème, dans le sud, les tonneaux seront bien remplis. Sur la moitié nord, ça sera un peu plus compliqué parce que vous dites sec et beau. Il va manquer le beau. Effectivement, aujourd'hui, on a un temps très nuageux, encore beaucoup de brouillard. Grisaille et brouillard, ça fait brousaille. Donc on a beaucoup de brousaille sur le tiers nord du pays. Ça concerne principalement la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et le nord-est du pays. Soyez très prudents ce matin sur les routes, on a des brouillards givrants. C'est dans ces régions, hein, principalement, que les nuages vont s'accrocher et qu'il va faire gris toute la journée. Plus à l'ouest, ça va un petit peu mieux déjà entre la Bretagne et les plaines d'Occitanie, ça va s'éclaircir dans la journée. Et puis alors, des Pyrénées aux Alpes, en passant par l'Auvergne, la Provence, la Côte d'Azur, là on a un soleil radieux dans un ciel sans nuages. Les températures dégelées encore ce matin avec moins 7 à moins 1 degré dans le nord, le centre et l'est. 0 à 6 partout ailleurs, et puis cet après-midi, 1 à 6 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 15 dans le sud.
Bon, je viens de déposer la brousaille à l'INPI là. C'est
et
bon.
Bah écoutez, c'est
la
parfait.
La marque est déposée, on ne peut plus nous la voler. Merci beaucoup Anissa Haddadi, très bon réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
S'il venait attaquer, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde.
Le nouveau coup de pression de Joe Biden sur Vladimir Poutine. Le président des États-Unis promet des sanctions très fortes contre le président russe, y compris des sanctions personnelles en cas d'invasion en Ukraine. Dans la course à l'Elysée, la candidature d'Emmanuel Macron se fait attendre. Elle pourrait intervenir d'ici la mi-février. Dans les équipes de Valérie Pécresse, ça s'active en coulisses pour installer un duel. Avec quelle stratégie? Réponse à suivre. Et puis, hommage aujourd'hui aux Invalides, au brigadier Alexandre Martin, 24 ans, tué au Mali samedi. Ses frères d'armes de l'opération Barkhane sont toujours sur place, mais il sera présent dans toutes les têtes. Témoignage dans ce journal.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, les informations vous sont présentées par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Si la Russie envahit l'Ukraine, cela changerait le monde, reconnaît Joe Biden. Alors que Moscou entame des manœuvres militaires à la frontière, un format Normandie se tient aujourd'hui sur le sujet, c'est-à-dire une réunion France-Allemagne-Ukraine-Russie. Le président américain continue de son côté de s'exprimer sur cette crise. Alexis Guilleux, hier c'était lors d'une conversation informelle avec des journalistes dans un petit commerce de Washington.
Oui, c'était l'occasion pour Joe Biden d'expliquer pourquoi les États-Unis ont mis en alerte 8500 militaires prêts à partir en Europe de l'Est. Il s'agit avant tout d'afficher leur soutien à l'OTAN.
Nous avons une obligation sacrée avec nos alliés de l'OTAN. Et nous sommes tous d'accord, il n'y a aucune raison qu'un membre de l'Alliance s'inquiète de savoir si l'OTAN viendra à son secours.
Alors Joe Biden a précisé qu'il n'avait aucune intention d'envoyer des troupes en Ukraine. Pour le président américain, si la situation est si incertaine, c'est à cause de Vladimir Poutine.
C'est tout Poutine, ça. Je ne pense pas que les gens autour de lui savent ce qu'il va faire.
Pourriez-vous envisager de sanctionner personnellement le président russe s'il venait attaquer l'Ukraine ?
Oui, c'est possible.
Jusque-là, les présidents américains ont toujours évité de sanctionner personnellement Vladimir Poutine, mais Joe Biden a tenu à rappeler l'impact qu'aurait une invasion de l'Ukraine.
Il y aurait des conséquences énormes, non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde entier. S'il venait attaquer, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde.
La Maison-Blanche estime qu'une invasion est imminente, mais en signe de décontraction après cette conversation, Joe Biden est allé s'offrir une glace dans les rues de Washington.
Merci Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis. Emmanuel Macron s'entretiendra de son côté avec Vladimir Poutine après-demain par téléphone.
L'épidémie de Covid continue de sévir. Plus de 500 000 cas en 24 heures en France, encore un record. Le nombre d'hospitalisations repasse, lui, au-dessus de 30 000.
Oui, c'est une première depuis avril 2021 dans le pays. Et pour continuer de lutter contre le Covid, la campagne de vaccination se poursuit, mais pour le moment, hors personnes immunodéprimées, pas de quatrième dose au programme, selon Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. En Israël, le deuxième rappel est plus largement ouvert depuis plusieurs semaines et cela semble plutôt concluant, selon Cyril Cohen, immunologue à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv.
Aujourd'hui en Israël, les plus de 60 ans, les personnes vulnérables et le personnel soignant peuvent la faire, et ça depuis à peu près un mois. On a à peu près 600 000 personnes qui ont cette quatrième dose, ce qui représenterait à peu près 30% de la population éligible. Et donc nous avons eu de récents résultats. Lorsqu'on compare un échantillon de 400 000 personnes qui ont fait ces quatre doses à 600 000 personnes qui ont fait trois doses il y a plus de quatre mois, on se rend compte qu'il y a à peu près deux fois moins de risque d'être infecté avec la COVID-19 sous Omicron et trois fois moins de risque de faire une maladie grave. Il faut dire que ce sont des données préliminaires et que nous attendons des données un peu plus solides.
Des propos recueillis par Yasmine Akatou pour Europe 1.
Face à la flambée des prix à la pompe, le gouvernement a tranché.
L'indemnité kilométrique est relevée de 10%, une aide destinée aux ménages imposés qui déclarent leurs frais professionnels. Cela permettrait une réduction annuelle d'impôts de 150 euros environ, selon Bercy.
Pour un coût de 400 millions d'euros, c'est en tout cas ce qui a été budgété. Présidentielle 2022, semaine 10,
moins 10,
voilà. Nouvelle accélération de campagne chez les Républicains après une série de meetings dans de petites salles. Valérie Pécresse annonce son premier grand rassemblement.
Et ce sera le 13 février au Zénith de Paris. Un moyen pour la candidate de lancer le match avec Emmanuel Macron, dont la candidature pourrait arriver d'ici le 15 février. Dans les équipes de la candidate, Alexandre Chauveau, c'est le branle-bas de combat. On est convaincu que le président se déclarera la semaine prochaine.
Oui, même si pour Valérie Pécresse, Emmanuel Macron est déjà en campagne, en coulisses, ses équipes réfléchissent à la stratégie à mettre en place pour le jour J. Toutes les hypothèses sont envisagées, une déclaration solennelle comme une entrée en campagne banalisée. Mais quoi qu'il arrive, la droite compte répliquer vite et fort pour ne pas céder trop d'espace au chef de l'État. Même si l'entourage de la candidate s'attend à subir au moins quelques jours l'effet médiatique et politique de sa candidature. En tout cas, les éléments de langage pour attaquer le bilan du président sont déjà prêts. En ligne de mire, l'insécurité, les flux migratoires et l'état des comptes publics. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a d'ailleurs travaillé spécifiquement sur cette question dès le mois de décembre. En interne, les proches de Valérie Pécresse voient dans la candidature du président le vrai début de la campagne, l'occasion pour elle de muscler le fond comme la forme. Ses proches l'encouragent ainsi à faire des propositions marquantes dans les semaines à venir et à intensifier le rythme des réunions publiques. Son premier vrai grand meeting de campagne aura lieu le 13 février prochain devant plus de 6000 personnes au Zénith de Paris.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Fait-il bon être juif en France à la veille du 77e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz? Le constat est terrible.
Et il est dressé dans une enquête de l'IFOP publiée dans Le Parisien ce matin. 20% d'entre eux déclarent avoir été victimes d'agressions physiques en raison de leur religion. Près de 7 juifs sur 10 disent avoir subi des moqueries ou des préjugés et ils ont la peau dure. Pour un quart des Français, ils ont trop de pouvoir dans les domaines de l'économie, de la finance ou encore des médias.
Il est mort pour la France. Hommage aujourd'hui au brigadier Alexandre Martin tombé au Mali samedi dernier.
Le cortège funèbre passera par le pont Alexandre III à Paris à 17h15 avant d'entrer dans les Invalides pour la cérémonie d'hommage aux militaires de 24 ans. Pendant ce temps, au Sahel, l'opération Barkhane continue dans toutes les têtes des soldats aujourd'hui. Une pensée émue pour sa famille. Écoutez le témoignage du lieutenant-colonel Sylvain, commandant en second du 54e régiment d'artillerie de hier où était affecté le brigadier Alexandre Martin.
C'était un jeune homme très discret, mais en même temps extrêmement sérieux, très professionnel, très apprécié par l'ensemble de ses camarades, qui a suivi un parcours remarquable en termes de progression de carrière. C'est un jeune de sa génération, qui jouait aux jeux vidéo, qui aimait être avec ses amis, qui était très amoureux de sa fiancée, avec qui il vivait depuis un an, qui avait des projets avec elle, de mariage, d'enfants. Nous lui devons cet hommage vis-à-vis de sa famille. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point le témoignage de la nation est important. Et il n'y a jamais de rupture, quels que soient les événements auxquels nous pouvons hélas être confrontés sur les différents théâtres d'opération. Puisque ces dernières années, nous avons été très touchés avec ces 53e morts au Mali. La mission se poursuit sur place, avec forcément une prise en charge psychologique de ceux qui ont été les plus touchés. Pour autant, on ne rapatrie pas quelqu'un lors d'un événement comme celui-là.
Le témoignage recueilli par William Molinier pour Europe 1.
On ouvre notre page des sports avec, pour commencer, cette déception dans le camp français à l'Open d'Australie.
Oui, plus aucun joueur tricolore en lice après l'élimination cette nuit chez les dames d'Alizé Cornet en quart de finale. La Française est tombée en moins d'une heure et demie face à l'Américaine Danielle Collins en 2-7, 7-5, 6-1.
Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer.
Julien, vous reconnaissez ce titre?
Oui, quand même.
Je pense,
oui.
Mais identifiable parmi tant d'autres.
Savoir aimer,
oui, de Florent Pagny. Le chanteur se met en mode guerrier, selon ses propres mots, hier soir sur ses réseaux sociaux. Il annule sa grande tournée des 60 ans, une série de concerts qu'il venait d'entamer.
Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Ce qui fait que je suis désolé. Mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements.
Florent Pagny qui précise que les billets de sa tournée qui devait se dérouler jusqu'à cet été seront remboursés.
On lui souhaite bon courage dans son combat. Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09 et on retrouve Thierry Léger pour les courses, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 609, idéal San Leandro. Ne le condamnez surtout pas sur sa dernière course à Vincennes, où il a dû se contenter d'une honorable 5e place face à une opposition d'un niveau certainement plus relevé que celle qui lui sera proposée cet après-midi. De plus, le profil de la piste de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer correspondra parfaitement bien à ses réelles aptitudes et force est de reconnaître que, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, il possède la première chance de cette course. Notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 9, idéal San Leandro.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, bon matin avec nous sur Europe 1. 5h11, c'est votre rendez-vous avec le pressing et autour de la table, Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. Antisémitisme, la peur du quotidien, c'est le titre à la une d'aujourd'hui en France, qui, comme Alban Le Prince nous le disait il y a un instant, publie ce matin une enquête IFOP édifiante, un sondage qui révèle l'étendue de l'antisémitisme en France. Près de la moitié des Juifs, 45% très exactement, justement, conseillent ainsi à leurs enfants de taire leur religion pour éviter des insultes et des agressions. Le Figaro, pour sa part, consacre sa une à Emmanuel Macron, un chef de l'État qui prend son temps en vue de la présidentielle. Il ne s'est toujours pas déclaré et cette attente pourrait lasser les Français. C'est en tout cas l'analyse du quotidien, alors que la cote de popularité du président a perdu 4 points en seulement un mois. On termine avec les Échos qui, ce matin, pointent du doigt les États-Unis et la Chine, deux pays qui freinent la croissance mondiale. Le FMI vient d'abaisser d'ailleurs d'un demi-point à 4,4% sa prévision pour 2022. En cause, la politique zéro Covid de Pékin et les réformes décevantes de Joe Biden. Voilà pour les unes. Ombline, on commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Les bonnes idées du Parisien aujourd'hui en France pour celles et ceux qui sont animés par une envie de plus en plus forte de se mobiliser pour la nature. Engagez-vous, qu'il disait, ça ne vous coûtera que du temps. Et vous avez le choix, vous connaissez sans doute les associations qui arpentent les plages et les rivières pour ramasser des tonnes de déchets plastiques. L'océan est la plus grande poubelle des sociétés modernes, dit la fondation Surfrider, qui a besoin de toujours plus de bénévoles pour collecter bouteilles, sachets et emballages. En 2019, plus de 83 000 personnes ont donné de leur temps dans 54 pays. Partez à la chasse au plastique, mais aussi aux plantes invasives le long des rivières et dans des sites naturels. Selon France Nature Environnement, la dernière grosse opération il y a 2 ans avait permis de collecter plus de 100 tonnes de déchets. 2500 bénévoles y avaient participé, donc il y a du monde en plus, il y a une vraie communauté. La satisfaction est immédiate, puisque vous voyez le résultat juste après quelques heures d'efforts. Alors si vous habitez dans la région Aquitaine, j'aime bien ça, vous n'y avez peut-être pas pensé, en tout cas vous ne savez pas que ça existe, tout simplement, je ne savais pas pour ma part, vous pouvez devenir secouriste d'animaux sauvages pour la Ligue de protection des oiseaux. Alors la seule obligation est de posséder une voiture, ambulancier pour des oiseaux aux ailes cassées, mais aussi pour renards en détresse. Vous transportez ces animaux blessés jusque chez un vétérinaire partenaire ou jusqu'au centre de soins LPO qui est situé à Audenge, c'est tout près de Bordeaux, et ils seront soignés, ces animaux, puis relâchés.
C'est-à-dire qu'on fait appel à vous parce que vous avez une voiture et que vous êtes inscrit, et on vous dit, vous êtes ambulancier, venez chercher l'oiseau, on l'a trouvé ici, et vous
Exactement.
L'amenez...
Exactement. C'est dans la région Aquitaine. Michel, par exemple, bénévole, il a chargé un blaireau sur sa banquette arrière.
Ah bah voilà, ça arrive pas souvent.
Un vrai blaireau.
Enfin, ça dépend de quel type de blaireau on parle. Mais...
Vous pourrez bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur des kilomètres parcourus. C'est vraiment très étonnant, hein, cette association. En tout cas, si vous êtes bénévole en Aquitaine, pensez-y. Et si vous n'habitez pas la région Aquitaine, vous pouvez créer une mare, tout simplement, dans votre jardin. C'est un appel que vient de lancer la Société Nationale de Protection de la Nature, la SNPN. Non seulement le point d'eau permettra aux abeilles de s'abreuver, aux grenouilles, aux libellules, aux insectes aquatiques, de se nourrir, de se cacher, de se reproduire, mais en plus, vous allez fabriquer un îlot de fraîcheur. Voilà les associations de protection de l'environnement. Exactement, et un puits de carbone, bien sûr, il faut le préciser. Voilà, ces associations de protection de l'environnement sont nombreuses, elles vous attendent, il y a plein d'idées, des actions existent partout, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Effectivement, c'est un article réjouissant, mais oui. On en a besoin.
Une bonne nouvelle, enfin.
Merci beaucoup, Ombline. On peut faire chacun à notre petite échelle des choses.
Exactement.
Martin, à vous.
Est-ce que vous avez vu Fight Club, Julien ?
Oui, mais il y a longtemps.
Ouais, alors
tout jeune, Fight Club, hein, c'est début
de justement, film culte David Fincher, sorti en 1999, juste avant les années 2000, donc. Et bien, 23 ans après, hein, il est enfin disponible en Chine.
C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden.
Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. Tu m'as frappé à l'oreille !
Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie.
Tu peux être le suivant ?
On lui a simplement donné un nom.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Alors Fight Club, c'est l'histoire d'un employé d'une compagnie d'assurance joué par Edward Norton. Sa vie est fade jusqu'à sa rencontre avec donc un certain Tyler Durden, alias Brad Pitt. À deux, hein, ils vont monter un club clandestin de boxe ultra violent, le Fight Club. Alors les Chinois peuvent donc désormais visionner ce film en streaming sur la plateforme Tencent Video. Mais la fin a été modifiée, la fin du film. Dans la version originale, hein, Edward Norton tue Brad Pitt et assiste à l'explosion des sièges de plusieurs entreprises censées représenter le monde moderne. Et bien dans la version chinoise, en revanche, hein, aucune critique du capitalisme et de ses dérives. Le film se termine par une authentique happy end. Bon, pour tous ceux qui ont vu cette scène finale, hein, vous imaginez bien que la transformer en happy end n'a pas dû être simple. Mais les Chinois ne se sont pas vraiment embarrassés des détails. Hein. Ils ont carrément coupé toute la scène et l'ont remplacé par un écran noir qui raconte une fin alternative. La police a déjoué le projet d'attentat. Je vous la lis, la fin tentative. La police a déjoué le projet d'attentat et arrêté tous les criminels empêchant l'explosion des bombes. Brad Pitt, lui, n'est pas mort mais interné dans un asile de fous. Le souci, c'est que plusieurs cinéphiles chinois avaient visiblement vu la version originale et c'est peu dire que la version modifiée les a un peu déçus.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.
C'est à peu près ça. Vous
pouvez reprendre une activité normale.
Voilà, c'est ça aussi.
C'est un scandale, écrit par exemple cet internaute sur le site de Tencent Video. Il ne se contente plus de censurer les scènes, il change carrément le scénario. Alors à qui doit-on cette modification ? Aux autorités chinoises peut-être, ou alors aux producteurs du film eux-mêmes, qui parfois, pour obtenir une autorisation de diffusion sur le gigantesque marché chinois, sont prêts à tout. Cette mésaventure est en tout cas loin d'être une première. En 2019, plusieurs passages sur la sexualité de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, dans le film Bohemian Rhapsody, avaient été gommés dans la version chinoise. Fight Club arrive en Chine avec une fin modifiée et ça passe très mal. C'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui soulève cette question. Allons-nous avoir un débat télévisé avant le premier tour de l'élection présidentielle ?
Moi je pense que la question elle est vite répondue.
Alors voilà, la question elle est vite répondue, nous dit cet influenceur dans un français douteux. Eh bien non Jean-Pierre, c'est son prénom. Cette question reste en suspens, il pourrait bien que les Français soient privés de débats télévisés avant le premier tour. Et pourtant cela fait des semaines que les chaînes y travaillent, de TF1 à France 2, en passant par BFM, CNews ou encore C8. Toutes draguent les candidats pour les convaincre de s'affronter en plein tour. Oui mais voilà, c'est bien simple, personne ne veut débattre, se désole un dirigeant de l'audiovisuel. À commencer par notre cher président Emmanuel Macron qui n'a pas très envie de descendre dans l'arène avant le premier tour. Or s'il n'y va pas, ce qui est hautement probable à ce stade, le risque est réel que tous les autres candidats refusent eux aussi d'y participer. D'autant qu'à ce stade, tous préfèrent s'observer bien au chaud de leur côté. Valérie Pécresse attend de savoir qui aura les 500 signatures de parrainage en mars avant d'éventuellement accepter un débat. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut bien débattre mais à ses conditions, c'est-à-dire sans les nains de gauche comme il décrit affectueusement ses petits camarades socialistes et écolos.
Bon, ce serait un vrai problème s'il n'y avait pas de débat avant le premier tour. Enfin, on aime ça nous quand même les débats.
Oui, un vrai problème. Alors, c'est pas à moi de le dire si ce serait un vrai problème. En tout cas, on s'oriente vers une campagne où les idées vont avoir du mal à se confronter en direct. D'autant que cette campagne présidentielle est pour l'heure, ça ne vous aura pas échappé, limitée pour ne pas dire au rabais. Car avec la crise sanitaire, les prétendants à l'Élysée sont obligés de limiter leurs déplacements et le nombre de meetings. On assiste du coup à une campagne très dématérialisée où tout, beaucoup en tout cas, se fait en ligne, comme voter aux différentes primaires. Résultat, la télévision apparaît plus que jamais comme l'outil idéal pour toucher un large public. Et c'est là toute l'ironie de la situation. On a rarement vu autant de candidats défiler sur les plateaux télé, participer aux émissions politiques créées spécialement pour cette émission. La télévision qui d'ailleurs est le vecteur choisi par une grande majorité de politiques pour annoncer leur candidature. Donc non, les prétendants à la candidature à la fonction suprême sont loin de bouder le petit écran tant qu'il n'est pas question, pardonnez-moi, d'avoir à partager le temps d'antenne ou d'avoir à confronter ses idées à celles d'un concurrent.
C'est simple, si on exclut les primaires, qui ne sont que des débats au sein d'une même famille politique, le dernier vrai face-à-face remonte au 23 septembre.
Hein. Ah oui, voilà, tout de même, hein. Entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui d'ailleurs à ce moment-là n'était pas encore officiellement candidat, donc ça ne compte pas.
Merci beaucoup Julien Rideau sur le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de ce mercredi. Alban Le Prince.
La riposte sera là et le coût sera très élevé. L'avertissement d'Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz hier. Le président doit s'entretenir par téléphone vendredi avec Vladimir Poutine, dont les troupes menacent d'envahir l'Ukraine. Alors que les prix à la pompe enchaînent les records, le gouvernement a tranché pour aider les gros rouleurs. L'exécutif relève de 10% le barème de l'indemnité kilométrique, coûte pouce visant les ménages imposés, déclarant leurs frais professionnels. Et puis le directeur général d'Orpea, convoqué par le gouvernement, raison de la sortie aujourd'hui des fossoyeurs. Un livre enquête sur le groupe d'EHPAD de luxe, faisant état de graves dysfonctionnements dans les établissements.
Europe 1. On donne chaque matin sur Europe 1 la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France. Et ce matin, elle nous emmène, Julien, en Haute-Garonne.
Bonjour Joseph Carle.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le maire de Blagnac, aux portes de Toulouse. Blagnac, connu du grand public pour son aéroport ou ses usines Airbus, mais pas encore pour sa zone agricole appelée Plaine des 15 sols. 135 hectares qui, pour être protégés et développés, viennent d'être sanctuarisés. Expliquez-nous.
Alors d'abord, si vous voulez, l'histoire de Blagnac est liée au maraîchage.
C'est-à-dire qu'avant que des avions ne décollent à Blagnac ou ne soient assemblés à Blagnac, c'était une ville dans laquelle le maraîchage était l'activité essentielle, parce que nous avons la chance d'avoir une plaine alluviale en bordure de la Garonne. Et donc, bien sûr, cette plaine, elle restait. Les choses ont évolué, les maraîchers sont partis, et nous, notre idée, ça a été de dire, il faut qu'on fasse revenir les maraîchers. On a une chance inouïe, c'est des terres qui n'ont pas été cultivées depuis suffisamment de temps, 20 ans, 30 ans, pour pouvoir faire du maraîchage biologique, donc on va aller là-dessus.
Donc ces parcelles de terre, si on comprend bien, elles étaient en train de se faire grignoter peu à peu par la ville, par les industries ?
Ce n'était pas encore le cas, mais il y avait ce risque et ce danger. Et donc, face à cela, d'abord, on a acheté les terres et la ville a dit, ben voilà, nous, on va progressivement acheter ces terres-là puisqu'elles appartenaient à un nombre très, très important de propriétaires. On a 220 propriétaires sur des toutes petites parcelles. Mais on a dit, on va racheter tout ça et on va faire ce qu'on appelle une ZAP, une zone agricole protégée, de telle sorte qu'aucune spéculation foncière ne soit possible et qu'on sanctuarise ce territoire pour qu'il soit définitivement et exclusivement consacré au maraîchage.
Ça vous donne les moyens administratifs, les moyens légaux pour sanctuariser ces 135 hectares dont vous possédez à peu près la moitié, c'est ça ?
Voilà, on est à peu près à 60 hectares à peu près de propriété, 62 précisément. Et effectivement, le fait, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec les services de l'État, et je veux ici les saluer parce qu'ils nous ont accompagnés, pour avoir l'arrêté du préfet déclarant cette zone agricole protégée, ce qui veut dire qu'il est hors de question que l'on puisse construire, que l'on puisse spéculer sur ces terrains. Ils doivent avoir cette vocation, qui est la vocation agricole, voire une vocation d'espace naturel, mais essentiellement une vocation agricole. Donc ça nous a permis d'assurer la protection de ces terrains.
Il y a combien d'agriculteurs actuellement sur cette plaine ?
Alors actuellement, il y a des agriculteurs historiques, puisqu'il en restait quelques-uns. En fait, il y en a deux qui font de l'agriculture raisonnée. Et on a implanté quatre jeunes maraîchers, nouveaux maraîchers, qui sont là, qui font du bio. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a démontré en les implantant que le modèle économique fonctionnait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là simplement pour faire un tour, ils sont là effectivement pour s'installer. Et avec 3 hectares, 2 hectares et demi, 4 hectares, le modèle économique en bio fonctionne. D'autant qu'on les a sécurisés parce qu'on a passé un accord avec le marché d'intérêt national en disant, dans tous les cas, vous avez un carré bio réservé au marché d'intérêt national et là, vous pourrez vendre vos produits et vous avez la garantie que ce que vous produisez, ce sera acheté. Si vous ne le vendez pas directement aux habitants, si vous ne le vendez pas directement au commerce bio, vous pouvez le vendre aux mines, il n'y a aucun problème, et ce sera réglé.
Et puis en plus, vous appliquez le système dit du commoda, c'est-à-dire que ces maraîchers peuvent bénéficier des terres gratuitement pendant 5 ans, c'est ça ?
Pendant 5 ans, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, je parlais du modèle économique, il faut que le modèle économique soit viable. Pour qu'il soit viable, il faut que ces maraîchers aient le temps de se lancer. Et pour qu'ils puissent se lancer pendant 5 ans, il y a un commoda, donc un bail agricole, si on veut dire plus simplement, qui permet pendant 5 ans de ne pas avoir de loyer. Alors c'est vrai que c'est un investissement de la part de la ville. Nous, depuis les 20 dernières années, on a investi 3 millions d'euros pour acheter les terres et les mettre gratuitement à la disposition des maraîchers. Mais c'est un choix parce que, au-delà du fait qu'on redonne à cette plaine sa vocation, il y a aussi une dimension d'économie circulaire, une dimension dans laquelle environnementale, parce que ça veut dire qu'on conserve ça. Et puis dire.
Oui, ça fait un poumon entre d'un côté cet aéroport et de l'autre ces gigantesques usines Airbus. Ça fait un peu un poumon de verdure dans lequel j'imagine les habitants de Blagnac peuvent venir aussi se ressourcer le week-end éventuellement.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'une ville, notre leitmotiv, c'est qu'on veut une ville équilibrée. Équilibrée entre la dynamique économique, tout à fait exceptionnelle. On est à la fois la ville du 21e siècle, très avancée sur l'aéronautique. Et puis, à côté de cela, la tradition du maraîchage et bien sûr la préservation d'espaces dans lesquels les Blagnacais peuvent aller, le week-end, se balader et être totalement dans un milieu environnemental tout à fait extraordinaire.
Merci beaucoup Joseph Carle, maire de Blagnac, de nous avoir partagé cette belle initiative, cette zone agricole protégée, non loin des usines et des pistes d'aéroport. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, merci de notre échange. Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matinée à tous sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 26 janvier. Le mercredi, c'est cinéma pour votre rendez-vous culture.
Oui, avec dans les salles aujourd'hui le quatrième film d'Edouard Baird, Adieu Paris, où dans le décor d'un vieux bistrot, on assiste au déjeuner de 8 messieurs, 8 légendes de la vie parisienne. Et puis pour la première fois, Sandrine Kiberlin passe derrière la caméra dans Une jeune fille qui va bien. Ce sont les choix de Laurie Choleva qui sera avec nous dans 20 minutes.
Et puis vous nous emmènerez à Megève pour cette expo sur la montagne dans la bande dessinée.
Oui, on pense bien sûr à Tintin au Tibet, Astérix chez les Helvètes ou Bécassine alpiniste. Certaines planches présentées sont moins célèbres ou bien plus rares. Ligne de crête, la bande dessinée sur les sommets ou comment des dessinateurs depuis les origines de la BD sont arrivés à faire entrer un décor grandiose dans des cases miniatures. Nous serons avec le commissaire de l'exposition.
Mais d'abord la météo, Anissa Dadi, et il y a encore beaucoup de fraîcheur ce matin.
Moins 10 degrés à Brive.
Ah!
Il fait froid.
Ça picote.
Il fait très froid. D'ailleurs, vous pouvez nous donner la température qu'il fait chez vous. N'hésitez pas sur Twitter ou sur la page
Facebook. C'est la minimale, moins 10 ?
Moins 10, c'est une des plus fraîches. Après, il y a des endroits où il fait encore plus froid, notamment en montagne, effectivement, ce matin, dans les coins reculés. Mais moins 10, c'est la plus fraîche sur les grandes villes. Moins 6 pour Aurillac, moins 5 à Clermont-Ferrand, moins 4 pour Lyon et Avignon ce matin, moins 3 à Auxerre, moins 2 à Strasbourg, 0 degré à Paris, 1 petit degré pour Marseille et 4 à Nice. Alors cet après-midi, ça va rester frais sur la moitié nord. On aura 1 degré à 3, 4 à Paris et jusqu'à 17 degrés à Perpignan grâce au soleil. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? C'est quasiment comme hier. On a des grisailles, des brouillards givrants sur toute la moitié nord du pays. Soyez prudents sur les routes. Ça descend même jusqu'aux plaines d'Occitanie. Sur la moitié sud, on a un soleil radieux qui brille déjà dès le début de journée. Puis dans l'après-midi, eh bien le très beau temps va s'imposer dans le sud, en particulier sur le massif central, les Alpes, la Côte d'Azur, la Provence, les Pyrénées. Et ailleurs, sur la moitié nord, ça va un petit peu mieux sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Franche-Comté. Alors au-dessus, Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, là, bah, c'est très grillé. Voilà.
Mais c'est pas grave, le soleil un jour reviendra.
J'ai cru que vous alliez lâcher une larme. Merci beaucoup Anissa Dadi. Il est 5h30.
Europe 1. 220 euros d'essence par mois, ben, ça va être génial parce que là, moi, je dépense énormément d'argent en carburant, donc c'est très dur.
À la une ce matin, Jean Castex annonce un relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique pour les gros rouleurs, un ballon d'oxygène pour cet automobiliste qui doit affronter, comme beaucoup, l'envolée des prix du carburant. La crise sanitaire est la quatrième dose en question. Le gouvernement temporise alors que les contaminations s'envolent. Mais tout le monde n'est pas touché de la même manière. Certains Français semblent avoir été épargnés par le coronavirus. Et puis un parfum de retour à la vie d'avant à Nantes avec le retour des Folles Journées, un festival de la musique classique qui est aussi le premier de l'année.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Il surveille l'évolution des prix du carburant comme le lait sur le feu face à l'envolée des prix à la pompe. Le gouvernement dégaine donc une nouvelle aide. L'indemnité kilométrique va être relevée de 10% pour les gros rouleurs. Ils sont environ 2,5 millions en France. Une subtilité, cette indemnité s'adresse aux personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et qui préfèrent déduire leurs frais réels plutôt que d'opter pour l'abattement forfaitaire. Une bulle d'air bienvenue, mais qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Reportage à Marseille, Stéphane Burgat.
À raison de 50 km aller-retour chaque jour, 5 fois par semaine, à bord d'une voiture essence vieille de 20 ans, les trajets domicile-travail impactent lourdement le budget de Sylvie.
220 euros d'essence par mois, ben, ça va être génial parce que là, moi, je dépense énormément d'argent en carburant, donc c'est très dur.
Alors cette annonce fait des heureux, oui, mais elle fait aussi grincer des dents.
Oui, mais bon, qui va la toucher ? C'est bien pour ceux qui font les frais réels, mais bon, pour ceux qui ne le font pas, par contre, on va continuer à payer un maximum.
2,5 millions de foyers concernés, les autres, comme Stéphane, déplorent à l'inverse, eh bien que l'on ne touche pas plutôt à la taxation des carburants.
Là, j'ai une petite voiture, je ne consomme pas beaucoup. J'ai mis 30 litres, j'en ai pour 51 euros, ok. Moi, je pense qu'il faut baisser les taxes. Il n'y a pas que la TVA. Sur l'essence, c'est 80% de taxes. Et bien, dans ces 80%-là, il n'y a pas des choses à gratter où on peut supprimer et le prix de l'essence, il baissera.
Et ces automobilistes se sentent exclus d'un dispositif dont ils s'estiment pourtant légitimes. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et la mesure va coûter 400 millions d'euros à l'État. Au total, si l'on tient compte de toutes les aides engagées entre l'indemnité inflation et le chèque énergie notamment, le gouvernement a dépensé 15 milliards d'euros cette année.
Et certaines de ces mesures concernent directement EDF, contrainte à regret de brader une partie de son électricité pour contenir l'envolée des prix.
Les quatre principaux syndicats du secteur de l'énergie appellent à la grève aujourd'hui. Ils dénoncent l'obligation faite à l'entreprise d'augmenter le volume d'électricité vendu à prix réduit à ses concurrents pour contenir la hausse des factures. EDF affirme qu'une telle mesure va laisser un trou de 8 milliards d'euros dans ses comptes.
Les tensions ne faiblissent pas à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. L'Allemagne et la France misent plus que jamais sur le dialogue pour ramener Moscou à la raison.
Côté face, Emmanuel Macron prévient, s'il doit y avoir une agression, la riposte sera là et le coup très élevé. Côté pile, le chef de l'État veut engager la désescalade. Il était hier soir à Berlin pour échanger avec le chancelier allemand. Une heure de tête-à-tête et une conviction. L'Europe doit éviter de calquer sa stratégie sur celle des Américains et prendre toute sa part dans cette crise. Ne pas rester passif, c'est le message porté par le président Louis Dragnel.
Eh bien, tout d'abord, faire en sorte qu'Olaf Scholz suive la position française, c'est-à-dire la capacité à envisager des sanctions contre la Russie, les nommer, mais surtout la capacité à les mettre en œuvre si la situation dégénère. Alors, dans le détail, le président français a essayé de convaincre son homologue de l'impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis qui ne croient plus à une issue diplomatique. Emmanuel Macron lui a fait la proposition d'être un acteur essentiel dans le possible dénouement de cette crise en reformant un couple franco-allemand à l'unisson, leader au sein de l'Union européenne, et cet objectif, essayer de montrer que l'Europe peut être politique et souveraine, la souveraineté de l'Union européenne, un concept auquel le président français est très attaché, mais qui produit peu d'effets pour le moment. Le problème, c'est qu'Olaf Scholz est à la tête d'une coalition très divisée sur la Russie, avec notamment une partie de ses soutiens qui ne croit pas un seul instant à la menace russe. Emmanuel Macron a donc tenté de le convaincre en utilisant des arguments de politique intérieure. Pour terminer, le président français échangera avec Vladimir Poutine ce vendredi. L'épreuve de vérité pour Emmanuel Macron.
Et la crise ukrainienne sera au cœur d'un conseil de défense prévu ce matin à 9h à l'Élysée.
Autre crise sanitaire, celle-là, les contaminations s'envolent, mais le bout du tunnel n'est plus si loin.
Le président du conseil scientifique estime qu'Omicron change la donne et qu'il oblige à changer de logiciel sur l'épidémie. Selon Jean-François Delfraissy, la vague de contamination va s'étendre jusqu'à la mi-mars avant de stagner puis de refluer. Au total, entre 15 et 17 millions de Français pourraient être infectés avec un virus qui va se banaliser et une tension moindre dans les hôpitaux. Il y a aussi ceux qui ne sont pas et qui ne seront peut-être jamais contaminés. Arthur Pereira, est-ce seulement une histoire de chance ?
Oui, c'est le cas de Maëlys, par exemple. Cette étudiante de 21 ans vit en Normandie. Elle n'a jamais été testée positive, ni même déclarée cas contact.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avérer que c'est de la chance ? Je pense que oui. Je suis quelqu'un qui continue à vivre, qui continue à aller voir du monde. Je continue à voir mes amis. Effectivement, je me teste quand je considère que c'est important de le faire, typiquement pour aller voir mes grands-parents ou toute personne fragile en général.
Au-delà de la vaccination et du respect des gestes barrières, on retrouve aussi des raisons scientifiques telles que l'immunité croisée, la prédisposition génétique. C'est ce qu'explique Noussim Mozadeh Keller, immunologue au CNRS.
On va produire une cellule immunitaire bien précise qui va être gardée en mémoire et ça va être que ces personnes-là vont combattre mieux le Covid que d'autres et donc ne vont pas forcément être infectées. Et il va y avoir des personnes qui ont dans leur génome une mutation dans leur gène, qui fait que la porte est fermée. Elle ne peut pas ni s'ouvrir ni se fermer, elle reste fermée. Du coup, le virus ne peut pas rentrer.
Une autre explication pourrait résider dans les groupes sanguins. D'après une étude danoise publiée il y a quelques mois, les personnes du groupe O auraient 20% de chances en moins de contracter le virus.
Arthur Pereira.
Un variant plus contagieux mais moins dangereux, d'où cette espérance, celle de tourner la page de l'épidémie. Illustration à Nantes avec le retour des folles journées.
Ce festival de musique classique avait dû être annulé l'an dernier pour cause de Covid. Sa programmation est tout un symbole, celui d'une tentative de revenir le plus vite possible à la vie d'avant. Les folles journées de Nantes, c'est d'abord le retour des artistes et du public, et même s'il faut encore respecter les jauges, l'enthousiasme est là à quelques heures de l'ouverture. Reportage Sandrine Brioul.
Des box de répétition et de toutes parts, de nouveau, la musique qui s'envole.
Je suis Manuel Vieillard, pianiste, je fais partie du Geister Duo.
David Salmon, et je suis l'autre moitié du Geister Duo. C'est le début de la fantaisie en fa mineur, la pièce la plus connue de quatre mains de Franz Schubert. Ça recommence, les choses recommencent et les gens ont envie d'être là.
Et là, le fait de repartir sur les concerts, au niveau du public, on sent que la concentration est vraiment beaucoup plus forte.
Après une édition 2021 à Tonne, celui qui a aussi le sourire, c'est René Martin, le directeur artistique.
Et après 4 confinements successifs, pas la possibilité de voir nos amis, de nous retrouver autour d'une bonne bouteille de vin ou d'écouter de la musique, je me suis dit, mais le compositeur idéal, c'est vraiment Schubert. Schubert, c'est un peu le SDF de la musique. Il dormait chez des amis, il composait ses œuvres, parfois dans les tavernes autour de Vienne. La musique de Schubert est tellement fraternelle et tellement amicale, c'est la musique idéale pour pouvoir repartir.
Des jauges à 80%, pas de restauration, de pot d'entracte ou de kiosque de convivialité, mais ici, l'année Schubert et ses presque 200 concerts résonnent quand même comme une heureuse reprise. Nantes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Les folles journées de Nantes, c'est à partir de ce soir et jusqu'à samedi. Le tennis est terminé pour Alizé Cornet, battue en quart de finale de l'Open d'Australie par l'américaine Danielle Collins en 2-7, 7-5, 6-1. Et puis le championnat d'Europe de handball, la France joue sa qualification pour les demi-finales ce soir à 20h30 face au Danemark. Un nul suffit aux Bleus pour rejoindre le dernier carré.
Merci beaucoup Christophe Lamarre pour toutes ces informations. Les courses à 5h38, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce Quintet, mais dans la discipline du trot. Et parmi les 15 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit au numéro 13, Eagle Eyes, récent bon quatrième d'une épreuve similaire sur ce tracé le 26 décembre et qui depuis a été ménagé en vue de ce Quintet, où il évoluera cette fois déféré des 4 pieds. L'opposition sera constituée par les numéros 15, Dream Along, qui vient de devancer mon favori Eagle Eyes, 5, Estero, qui possède des références solides sur cette piste cagnoise, et 14, Esteban Giel, courageux lauréat le 12 décembre à Cagnes-sur-Mer, et qui dans la foulée se retrouve idéalement engagé au plafond des gains. Enfin les numéros 8, Eusebio des Riprés, 9, Elixir du Rabutin, 3, Eberton et 11, Clovis Montaval ont eux aussi des arguments solides pour postuler à l'une des 5 premières places de ce Quintet. Mon pronostic, 13, 15, 5, 14, 8, 9, 3 et 11.
Vous retrouvez ces pronostics dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 19 ans, en France, les responsables ivoiriens signaient en grande pompe les accords de Marcoussi qui devaient mettre fin à la guerre civile. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Ces accords ont été un échec, oui, mais pourquoi ? Eh bien, on va revenir justement avec vous, Pauline, sur les débuts de cette crise. Le début du conflit, nous sommes en 2002, des soldats rebelles hostiles au président Laurent Gbagbo tente un coup de force.
Mutinerie d'anciens militaires ou tentative de coup d'État, toujours est-il que les événements qui se sont déroulés ces dernières heures en Côte d'Ivoire à Abidjan semblent graves. Le sang a coulé, le ministre ivoirien de l'Intérieur, Émile Boga Doudou, a été tué ce matin à l'aube.
Le 19 septembre, toute la Côte d'Ivoire se réveille dans l'angoisse. Des hommes armés viennent d'attaquer Abidjan, la capitale économique, les villes de Korogo, au nord, et Bouaké, au centre du pays.
Moi, personnellement, j'ai été molestée par des gens drogués qui sont venus à la maison, qui ont exigé que je donne tout. Donc, il y a eu des violences physiques. Bon, on a été frappé, il y a un ami ivoirien qui a été blessé. Mais ces personnes n'étaient pas dans un état normal.
Les affrontements opposent l'armée à des rebelles qu'elle ne connaît pas encore depuis l'Italie où il est en voyage présidentiel. Laurent Gbagbo et sa délégation confirment la tentative de coup d'État. Les violences se poursuivent, les assassinats, les règlements de compte et les rebelles prennent très vite les villes stratégiques du nord. Le sud reste aux loyalistes. La Côte d'Ivoire est coupée en deux.
Et les rebelles annoncent leur première revendication, Pauline.
Le départ de Laurent Gbagbo, des élections anticipées et la fin de l'ivoirité, un concept xénophobe qui marginalise les habitants d'origine burkinabé, malienne ou guinéenne. Le visage de cette rébellion, baptisée Force Nouvelle, c'est cet homme, Guillaume Soro, invité quelques semaines plus tard sur Europe 1.
C'est aujourd'hui un régime d'assassinat politique, de meurtre, etc. Il y a des escadrons de la mort qui existent à Abidjan. Tout citoyen donc, qui revendique sa liberté est exécuté, vous le savez.
Le principal opposant de Gbagbo, Alassane Ouattara, accusé par le pouvoir d'être le cerveau du soulèvement, se réfugie à l'ambassade de France. Paris lance l'opération Licorne. Objectif, assurer la sécurité des ressortissants français et le statu quo entre le nord et le sud. Les militaires patrouillent et voient sur le terrain les exactions.
Nos soldats sont effectivement tombés sur un monticule de terre de 30 mètres de long environ, sur 2 mètres de haut, et puis il y avait quelques corps qui dépassaient de de cette fosse.
La France ne veut pas aider le président Gbagbo à combattre les rebelles. Elle choisit la voie diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, se rend à Abidjan en janvier 2003.
Nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui où les esprits sont très échauffés, très tendus, très inquiets. Et je viens donc justement pour essayer de relancer le dialogue politique en Côte d'Ivoire.
Dialogue qui aura lieu quelques jours plus tard en France, à Marcoussi. Laurent Gbagbo et les groupes rebelles trouvent un accord. Gbagbo reste président, mais doit déléguer une bonne partie de son pouvoir à un gouvernement d'union.
Ce qu'il ne fera jamais.
Non, et il annonce clairement les choses dès son retour à Abidjan.
Le texte qui est sorti de Marcoussi est un texte de compromis. Tous les textes de compromis que je connais sont tous des mauvais textes.
Il faudra patienter 4 ans pour qu'en 2007, les accords de Ouagadougou mettent un terme au conflit, avant de ressurgir en 2010 lors de l'élection présidentielle opposant Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara.
Merci beaucoup Pauline Jacquot. C'était le jour où vous restez avec nous. La montagne dans la bande dessinée s'expose à Megève. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 6h15 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et on prend à présent de l'altitude. Direction Megève, en Haute-Savoie. La station de ski dans les Alpes présente en ce moment l'exposition Ligne de crête, la bande dessinée sur les sommets. Et nous sommes justement, Omblin, en ligne avec le commissaire de l'exposition.
Bonjour Thierry Grunstein.
Bonjour.
Cette exposition montre le lien étroit qui existe entre la BD et la montagne, la majesté grandiose des plus hautes montagnes dans les petites cases étriquées de la bande dessinée, je vous cite. Ces dessins miniatures ont le pouvoir de nous projeter dans des paysages immenses, aussi bien superbes qu'hostiles, une pente, des rochers, de la neige. Et l'imaginaire fait le reste, finalement ?
Eh oui. C'est ça le sortilège de la bande dessinée. Bon, il est vrai que les dessinateurs, quand ils le peuvent, élargissent le cadre sur toute la largeur de la page quand même pour nous offrir quelques beaux paysages panoramiques. Mais d'une façon générale, oui, c'est vrai que la montagne fait partie de ces écosystèmes qui les ont beaucoup inspirés, tout comme l'océan, bien sûr, ou la jungle aussi. Mais dès les origines de la bande dessinée, au XIXe siècle, on trouve des récits qui se situent dans les Alpes, et je pense en particulier à une bande dessinée de Gustave Doré qui relate, au début des années 1850, une mémorable ascension du Mont Blanc.
25 artistes, Gustave Doré et d'autres, hein, bien sûr, une centaine d'œuvres originales disposées en 10 thématiques. Comment avez-vous choisi les planches que vous présentez sur quels critères ?
Il faut bien sûr composer avec la disponibilité des œuvres. Il y a des œuvres que nous montrons, même si les originaux n'ont pas pu nous être prêtés, par exemple des planches de bécassines alpinistes, parce qu'ils sont trop fragiles, alors on présente des reproductions. Mais chaque fois que c'est possible, bien sûr, il s'agit d'originaux. Et ce qui m'a guidé, ça a toujours été d'essayer de panacher les bandes dessinées très connues. Alors on va croiser Torgal, Lapineau, Bécassine déjà cité et d'autres héros que les visiteurs identifieront sans difficulté, avec de vraies découvertes d'œuvres plus rares, moins connues et parfois plus singulières.
Tintin au Tibet aussi, hein, Astérix chez les Helvètes, hein, je complète, il y est retourné d'ailleurs dernièrement dans Astérix et le Griffon, il est retourné dans la neige. Tous les grands héros, en tout cas de nombreux héros de bande dessinée se sont frottés au sommet. C'est un défi que se sont lancés des dessinateurs dans l'histoire de la BD.
Je crois en tout cas que pour les personnages, affronter la montagne, c'est un défi, parce que c'est le lieu de tous les dangers et que c'est aussi le lieu du dépassement de soi, le lieu du mystère dans lequel on peut rencontrer des animaux sauvages, des grottes mystérieuses, affronter les éléments. Bref, c'est véritablement un milieu propice à l'aventure et c'est la raison pour laquelle la bande dessinée en a fait un tel usage.
Et l'exposition, d'ailleurs, ce que vous montrez n'est pas créé d'une manière chronologique, hein, mais ce sont des thèmes
non,
que vous présentez.
Tout. Voilà, une dizaine de thèmes qui montrent justement la diversité des approches. Bien sûr, il y a des thèmes très attendus comme le ski ou l'alpinisme, mais on a aussi voulu avoir un ancrage très local et donc on présente plusieurs bandes dessinées qui justement se situent dans le massif du Mont Blanc et montrent quelques-unes des courses célèbres de pionniers de l'alpinisme qui ont ouvert des voies dans ce massif à une époque où il était encore redouté et entouré de toutes sortes de légendes et de superstitions. Et voilà, la bande dessinée a raconté tout ça aussi.
Et puis, on se promène dans d'autres montagnes, puisqu'on va en Chine, on va au Ladakh, on va en Afghanistan, un petit peu partout.
Vous avez dirigé le musée de la bande dessinée d'Angoulême et vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la BD. La montagne, comme vous l'avez précisé, est très présente, et ce depuis longtemps, le 19e siècle, hein, vous l'avez aussi dit un petit peu plus tôt. Les dessinateurs affectionnent particulièrement les sommets, les crêtes, dans le dessin, est-ce que dans la neige qui est particulière à dessiner ?
Alors la neige, c'est très intéressant pour un dessinateur parce que comme il affronte quotidiennement le blanc du papier, donc là il s'agit d'introduire du blanc dans du blanc, et évidemment quand on fait de la bande dessinée en couleur, eh bien on peut utiliser le blanc comme une couleur à part entière, mais en fait on s'aperçoit que très souvent la neige n'est pas blanche dans les bandes dessinées, et elle est souvent dans une gamme de gris et de bleuté, et il y a de magnifiques coloristes qui sont présents dans l'exposition. Je pense à Laurent Bidot par exemple, dont on a retenu une case pour faire l'affiche qui donne à la neige toutes sortes de scintillements tout à fait remarquables.
Existe-t-il autant de techniques pour dessiner la montagne, et pas que la neige, hein, qu'il y a de dessinateurs ?
Oui, ça, je crois que l'exposition le montre bien. Il y a en effet presque autant de techniques que de dessinateurs. Certains utilisent des techniques mixtes. Et par exemple, nous avons une dizaine de planches d'un album de Vincent Vanelli qui s'appelle Le Bon Endroit, où on peut voir sur une même planche des parties dessinées au fusain, des parties dessinées en négatif à la gouache blanche sur un fond d'encre noire, des parties traitées au lavis, etc. Et tout ça donne tout un jeu de textures et une richesse picturale au dessin. Tout à fait extraordinaire.
Merci beaucoup Thierry Grunstein d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de cette exposition Ligne de crête, la bande dessinée sur les sommets. Vous êtes le commissaire de cette expo présentée au Palais Megève jusqu'au 18 avril. Merci, à bientôt.
Au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10, j'espère que vous allez bien sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Une invasion russe en Ukraine changerait le monde. Joe Biden met la pression sur Vladimir Poutine, dont les troupes sont toujours postées à la frontière. De son côté, Emmanuel Macron s'entretiendra par téléphone vendredi avec le président russe. En attendant, un format Normandie est organisé aujourd'hui, c'est-à-dire une réunion France, Allemagne, Ukraine, Russie. Moins 150 euros d'impôts en moyenne sur l'année, c'est le coup de pouce annoncé hier par l'exécutif pour compenser la flambée des prix à la pompe. Le gouvernement relève de 10% le barème de l'indemnité kilométrique pour les ménages imposés qui déclarent leurs frais professionnels. Et puis à l'Open d'Australie, plus aucun Français dans la course au titre chez les dames. Alizé Cornet s'est inclinée en quart de finale cette nuit face à l'américaine Danielle Collins en 2-7.
Allez, courage, si vous avez du mal à émerger ce matin, on est avec vous, on vous accompagne avec à présent les sorties ciné de la semaine.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à vous.
Vous nous proposez pour commencer un huis clos dans un bistrot parisien, signé Édouard Baird.
Oui, Édouard Baird vous offre la possibilité de déjeuner avec Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens, Bernard Lecoq, Bernard Murat, Daniel Prévost ou encore Jean-François Stévenin. Franchement, ça ne se refuse pas. Pour son quatrième film, Édouard Baird met donc en scène le repas annuel de 8 légendes de la vie parisienne et on a vraiment l'impression de déjeuner avec eux. Alors au menu d'Adieu Paris, puisque c'est le titre du film, plus de poireaux vinaigrettes malheureusement, mais des retrouvailles, des engueulades, de la rigolade entre vieux amis. C'est un peu un repas chaotique où on fait le bilan, plein de faux-semblants aussi, qui va être perturbé par la venue de Benoît Poulvorde qui joue son propre rôle.
Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne.
C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner.
C'est toujours agréable de louper le début.
Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé.
Des gens qui savent se détester.
Qui a été le plus lamentable cette année ?
Bonne ambiance.
Tu vois le dîner de con ?
Oui.
Eh ben c'est nous les cons.
Alors le tournage a été aussi vite que fusent les répliques pendant le film, 15 jours seulement pour cette comédie, un brin mélancolique mais qui va vous séduire à coup sûr, c'est une vraie réflexion sur le temps qui passe, sur l'amitié, sur la vie, et celui qui en parle le mieux, c'est encore Édouard Baird.
C'est un déjeuner massacre un peu, c'est que ça m'amuse les choses qui ont l'air de se passer comme avant, qui bougent pas, puis en fait c'est plus du tout comme avant, vous savez, c'est comme quand les rituels continuent, il n'y a plus rien dedans, c'est-à-dire qu'on fait semblant de se retrouver, rien n'a changé, puis tout à coup l'époque est tellement différente, quand on veut maintenir des trucs qui tiennent pas sur l'amitié, ou sur l'amour, ou sur la conviction, je trouve qu'à un moment ça explose, quoi.
Autre film qui vous a marqué, Laurie, c'est celui d'une célèbre actrice passée derrière la caméra.
Oui, Sandrine Kiberlain est enfin passée derrière la caméra et elle a bien fait. Avec Une jeune fille qui va bien, Sandrine nous offre un premier long métrage à son image, chic, sensible et fort. L'histoire d'Irène, dont on tombe amoureux dès les premières secondes du film. Une jeune femme juive de 19 ans dans un Paris occupé en 1942, qui prépare le conservatoire, qui vit son premier amour. Bref, qui va bien, en tout cas, qui fait tout pour l'être.
À quoi songez-vous donc en me considérant si fort ?
Je songe que vous embellissez tous les jours.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
Que la mention juive devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité.
À quel âge t'as couché pour la première fois ?
Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette.
Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois.
Et puis faut arrêter, là. On n'a pas la peste non plus.
Faut jamais avoir peur. On décide de tout dans la vie.
Un film vraiment porté par l'interprétation époustouflante de cette actrice, Rebecca Marder, qu'on vient d'entendre, pensionnaire de la Comédie française, dont on risque de beaucoup entendre parler. Et puis surtout, un film avec en toile de fond l'occupation, profondément lumineux, qui permet à Sandrine Kiberlain de parler indirectement de sa propre famille, de sa propre expérience, de sa grand-mère, de l'insouciance de ses 19 ans. Ce film pose cette question, comment profiter de tout ce que nous offre la vie lorsque tout s'effondre ? Une jeune fille qui va bien, c'est une claque de cinéma. Et puis surtout, c'est un film profondément humain qui nous rappelle qu'il faut toujours se tenir prêt à lutter contre toutes sortes de barbaries.
Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain, son premier film et Adieu Paris d'Edouard Baer. Voilà, on a de quoi faire cette semaine au cinéma. Merci beaucoup, Laurie Choleva.
Si. Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant, la météo, le journal et une situation explosive.
Dont on vous parle régulièrement sur cette antenne depuis plusieurs semaines, la situation entre Kiev et Moscou. Plus de 100 000 soldats russes massés à la frontière, prêts à envahir l'Ukraine à la moindre étincelle. Et clairement, ce scénario a pris de l'épaisseur ces dernières heures. Sommes-nous aux prémices d'une guerre de grande ampleur à seulement 3 heures de vol de Paris ? Conflit qui aurait des conséquences dramatiques. Vague de réfugiés, explosion des prix du gaz et du pétrole, déjà, vous le savez bien, à des niveaux très élevés. Voilà pourquoi Emmanuel Macron prône la désescalade. C'est ce que la France va proposer tout à l'heure à la Russie et l'Ukraine lors d'une réunion semi-officielle. La diplomatie a-t-elle encore une chance ? On en parle dans une dizaine de minutes avec Marie Dumoulin, grande spécialiste de la Russie. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
L'album qui marque la fin de l'aventure entre Paul Simon et Art Garfunkel. Un duo mythique et un album de légende, Bridge Over Troubled Water, sorti il y a exactement 52 ans, Simon & Garfunkel, dans 20 minutes.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, et c'est dans le sud que la journée sera la plus belle ce matin.
Oui, et dès ce matin, ouais, effectivement, sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura, le Massif Central, la Provence, la Côte d'Azur, le soleil brille dès le début de la journée et il va faire beau toute la journée, avec tout de même le retour du Mistral, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Plus au nord, ce matin, on a beaucoup de brouillard, avec des chaussées qui peuvent être glissantes, soyez prudents. Dans l'après-midi, entre la Franche-Comté et la Bretagne, là, on aura quelques petites éclaircies, mais c'est très gris, c'est très sombre dans le nord, sur la région parisienne, les Ardennes et la Champagne. Voilà, là, il faut oublier l'idée de voir un rayon de soleil. Moins 10 degrés ce matin à Brive, moins 6 à Montluçon, moins 5 à Chambéry, moins 4 pour Albi, Lyon et Avignon, moins 2 à Bordeaux, 0 degré à Paris, Lille, Nantes et à Voiron. C'est Antoine qui nous signale ce 0 degré dans l'Isère. On a moins 1 à Azay-le-Rideau, où le château, le magnifique château, est dans la brume ce matin.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, vous faites bien. Il est 5h30. Il est même 6h. Une fois adultes, ils sont près de 10 000 à vivre dans la rue. On vous parle ce matin des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer. Comment améliorer leur insertion ? C'est l'objectif du texte voté hier au Parlement. En Seine-Saint-Denis, une association propose d'accueillir ces jeunes, même après leurs 18 ans. Reportage à suivre. La courbe donne le vertige. Plus d'un demi-million de cas de Covid détectés hier. Face à Omicron, aura-t-on besoin d'une quatrième dose de vaccin ? Une option d'abord évoquée, puis écartée. Désormais par le Conseil scientifique, un changement de cap qu'on vous explique dans ce journal. Et puis, elle demande l'aide de l'État français. Vous entendrez le témoignage de la sœur de Benjamin Brière, ce Français accusé d'espionnage qui a été condamné hier à 8 ans de prison en Iran.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Une loi pour empêcher les enfants placés de finir dans la rue. Parmi les personnes sans-abri nées en France, un quart sont des adultes qui ont grandi en famille d'accueil ou en foyer. Une aide sociale à l'enfance dont dépendent 300 000 jeunes jusqu'à leurs 18 ans. Une échéance assouplie par le texte adopté hier au Parlement. Désormais, ces adultes pourront être accompagnés jusqu'à leurs 21 ans, le temps de trouver un travail et un logement. C'est déjà ce que propose l'association SOS, comme dans ce centre à Aubervilliers, en région parisienne. Le reportage de Zoé Pallier.
Des murs tapissés de photos, des canapés moelleux, des sachets de thé éparpillés, c'est comme à la maison, sourit David. Arrivé ici il y a 2 ans, contraint de quitter sa famille d'accueil alors qu'il n'avait pas fini de grandir.
Moi je sais qu'à partir de 14-15 ans, on me disait qu'à mes 18 ans, je devrais partir. On est encore tout jeune et on n'est pas préparé à quitter tout de suite le cocon familial, je dirais la famille d'accueil.
Livré à lui-même, David a frôlé le décrochage scolaire. Ici, il a retrouvé un cadre avec un logement, des rendez-vous chez le psy, des activité, un dialogue apaisé avec les adultes.
C'est quand le séjour ski ?
C'est la deuxième semaine
parfait,
des vacances.
C'est parfait.
L'objectif maintenant, c'est de pouvoir finir mes études. Et ça, j'aurais pas pu le faire, je pense, si j'avais pas eu mon éducateur pour me pousser.
Son éducateur, c'est Frédéric.
David, quand t'es arrivé chez nous, c'était difficile.
Il encadre une trentaine de jeunes, certains brisés par 18 années à être ballottés de foyers en foyers, parfois à dormir dehors.
C'est très compliqué pour comme la plupart de nos jeunes. Faut qu'on puisse encore les accompagner jusqu'au bout de leur formation, mais d'abord, faut parler d'abord de reconstruction.
Et quand ils doivent quitter le centre à leurs 21 ans, ces jeunes se disent autonomes, prêts à chercher un travail et un nouveau logement.
Le reportage de Zoé Pallier. Le texte adopté introduit aussi des contrôles stricts pour les antécédents judiciaires des adultes au contact de ces mineurs dans les foyers et les familles d'accueil.
Plus d'un demi-million de cas de Covid détectés hier, record absolu, et ce depuis le début de la pandémie.
Les hospitalisations aussi progressent, plus de 30 000. Et malgré l'urgence, le rythme des doses de rappel est en chute libre. Près de 150 000 chaque jour, c'est moitié moins qu'au début du mois de janvier. Des piqûres à répétition qui, selon l'OMS, ne permettront pas d'en finir avec l'épidémie. De quoi questionner donc la pertinence d'une quatrième dose.
Bonjour Yasmina Katou.
Bonjour.
Yasmina, le ministre de la Santé attend l'avis des scientifiques, mais Olivier Véran a précisé que cette quatrième dose n'aurait de sens que si elle protégeait les plus fragiles. Les seuls à pouvoir en bénéficier pour l'instant, c'est ça ?
Oui, en France, les personnes sévèrement immunodéprimées sont concernées par une quatrième dose. Cela représente entre 250 et 300 000 malades, des personnes transplantées, des patients dialysés ou encore des malades sous traitement immunosuppresseur. Leur système immunitaire très fragile ne permet pas de conserver les anticorps produits par la vaccination. Alors pour booster l'immunité, les autorités préconisent d'effectuer la seconde dose de rappel 3 mois après la dernière injection. Pour le reste de la population, une quatrième dose n'est pas envisagé pour l'instant, confiait Alain Fischer hier. Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale estime qu'il n'y a pas d'éléments qui incitent à une dose supplémentaire à l'heure actuelle.
Alors Yasmina, si la France hésite, en revanche l'Espagne, le Danemark et Israël ont déjà donné leur feu vert à une quatrième dose avec déjà des résultats préliminaires.
Oui, en Israël, il y a un peu plus de recul puisque depuis 3 semaines, les plus de 60 ans et les soignants sont éligibles à une quatrième dose. 600 000 Israéliens ont déjà reçu ce deuxième rappel et les premières données sont concluantes, explique Cyril Cohen, immunologue à Tel Aviv.
Lorsqu'on compare un échantillon de 400 000 personnes qui ont fait ces 4 doses à 600 000 personnes qui ont fait 3 doses il y a plus de 4 mois, on se rend compte qu'il y a 2 fois moins de risque d'être infecté avec la Covid-19 sous Omicron et 3 fois moins de risque de faire une maladie grave.
Face à ces résultats, le comité israélien de lutte contre la pandémie recommande une quatrième dose pour tous les adultes. Le ministère de la Santé doit se prononcer dans les prochains jours.
L'éclairage de Yasmina Katou.
6h passées de 4 minutes sur Europe 1. On en vient à cette condamnation inacceptable pour le Quai d'Orsay, celle de Benjamin Brière, condamné hier à 8 ans et 8 mois de prison en Iran.
Le Français a été déclaré coupable d'espionnage par un tribunal révolutionnaire. L'homme de 36 ans est déjà incarcéré depuis plus d'un an, arrêté à cause de photos prises à l'aide d'un drone dans une zone interdite en Iran. Sa sœur Blandine est consternée par cette condamnation.
Aujourd'hui, on est complètement à terre avec une décision pareille, mais on est aussi très en colère de ce qui se passe. C'est un procès complètement injuste. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Et là, on est clairement dans un schéma où Benjamin est otage des autorités iraniennes. Maintenant, c'est clair, quoi. Aujourd'hui, la diplomatie française est la seule à savoir ce qu'il faut faire pour le sortir de là. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas ne rien dire face à une telle accusation. C'est désormais au gouvernement français de mettre son poids dans la balance et de faire en sorte qu'un otage politique sorte de là. Et aujourd'hui, on réagit, on tape encore plus du poing sur la table. On a besoin que notre gouvernement bouge. L'Iran demande quelque chose là, donc il va falloir répondre à ça et faire en sorte que justice soit faite et que Benjamin sorte de cet enfer.
Le témoignage de Blandine, sœur de Benjamin Brière, au micro d'Arthur Pereira.
Il s'appelle Rufus Wainwright et son nom ne vous dit peut-être rien, alors on va vous mettre sur la piste. The minor fall, the major lift, the baffled
king composing Alleluia. Et vous aurez reconnu Alleluia, interprété, repris par ce crooner canadien qui a aussi participé à la bande originale du film Moulin Rouge. Il revient avec une tournée mondiale et surtout un album live accompagné d'un orchestre à cordes. Rencontre avec Marie Jiquel.
Sa carrure de gentil grizzly, sa voix suave qui berce l'Amérique du Nord depuis des dizaines d'années et toujours son appétit de contourner les règles. Rufus Wainwright est plus du genre à suivre son instinct. Cette année le prouve encore, un duo avec Calogero et cette collaboration avec l'ensemble classique, le Amsterdam Sinfonietta.
Selon moi, entre 40 et 50 ans, c'est la période où ta voix est la plus puissante. Tu as encore toutes tes capacités. Mais tu as aussi la sagesse, l'expérience, et donc c'est le moment de relever plein de défis.
De Berlioz à Leonard Cohen, en passant par Jacques Brel, Rufus Wainwright se rassasie, profitant de l'un des meilleurs orchestres du monde.
J'ai de grandes connaissances en opéra et en musique classique, mais aussi en musique folk. Et grâce à ces outils, je peux me permettre d'aller explorer d'autres univers.
Ce gourmet de la musique,
oui, c'est une définition qui me va bien,
sera en concert au Grand Rex à Paris à la fin mars.
Voilà, Rufus Wainwright, avec l'accent, qui est aussi francophile d'ailleurs, amoureux de la chanson française. Il a fait des reprises notamment d'Amsterdam de Jacques Brel.
Ah oui, on va écouter ça alors.
Oui, bah, il est en concert, donc n'hésitez pas.
Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal. On ira donc voir Rufus Wainwright. Et si j'ai massacré son nom, j'en suis désolé. On passe au sport,
oui, s'il vous plaît.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports, c'est avec Martin Lange. Et ça y est, il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie.
Oui, Elise Cornet, la dernière représentante du clan tricolore, s'est inclinée cette nuit contre l'américaine Danielle Collins. Défaite en 2-7 sec. Mais à 32 ans, Cornet retient surtout le positif et ce premier quart de finale en grand chelem.
Ce que j'en retire, c'est que je suis capable de le faire, je suis capable d'aller en quart de finale, je suis capable de battre des joueuses très fortes, d'affilée, pas comme ça une fois et puis après il n'y a pas de match backup. Donc c'est quand même des indicateurs qui sont hyper précieux pour la suite de la saison.
Alizé Cornet au micro de Marion Tyson. Hier, c'est Gaël Monfils qui a buté sur l'obstacle Matteo Berrettini. Mais avec deux Français en quart, le bilan de cette Open d'Australie côté bleu est bon, même si la jeune génération peine toujours à pointer le bout de son nez.
Handball, Martin et des Bleus face à leur destin.
Oui, les joueurs de l'équipe de France affrontent le Danemark ce soir. Il faudra gagner ou au minimum faire match nul pour se qualifier en demi-finale. Un match couperet dans toutes les têtes, selon le sélectionneur Guillaume Gilles.
Il y a un moment de vie de mort là, qui se joue sur une heure vis-à-vis de l'Euro. C'est ce qui génère aussi l'excitation au préalable. Le Danemark est ultra présent dans les têtes et dans les discussions.
Pour mesurer le défi qui s'offre aux Bleus, rappelons que les Danois sont champions du monde et vice-champions olympiques cet été à Tokyo, battus seulement par l'équipe de France. Une petite note d'espoir donc.
On passe au football.
Oui, avec un match en retard de Ligue 1 ce soir, la lanterne rouge Saint-Etienne se déplace à Angers dans l'espoir d'enclencher la mission maintien. Et puis à la CAN, qualification hier pour les quarts du Sénégal et du Maroc. Aujourd'hui, dernier huitième de finale avec Mali, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, Égypte.
Dans le reste de l'actualité sportive, du ski et des jeux d'hiver qui se profilent, Martin.
Oui, avec la belle troisième place de Tessa Worley au géant de Kronplatz en Italie, le dernier géant avant les Jeux. En revanche, un fin de préparation plus difficile pour les hommes. Clément Noël a fini 9e du slalom de Schlamding en Autriche, alors qu'Alexis Pinturo est parti à la faute dès la première manche. Et puis en parlant des Jeux, sachez qu'on connaîtra ce soir le nom des porte-drapeaux de la délégation tricolore. Ils seront deux et ils seront dévoilés dans tout le sport sur France 3.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on reçoit la spécialiste de la Russie, Marie Dumoulin. Poutine va-t-il réellement envahir l'Ukraine? On en parle dans deux minutes, à tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité Julien est la directrice du programme Europe élargie au sein du Conseil européen des relations étrangères.
Et grande spécialiste de la Russie. Bonjour Marie Dumoulin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette situation hautement instable entre la Russie et l'Ukraine, deux pays dont les diplomates vont théoriquement se parler aujourd'hui à Paris, puisqu'ils vont participer autour de la France et de l'Allemagne à une réunion au format dit Normandie. Je le rappelle, créée en 2014 au plus fort de la guerre du Donbass. Ça veut dire que la diplomatie a encore une chance, que la désescalade souhaitée par Emmanuel Macron est possible ?
C'est en tout cas ce que cherchent à faire les Français et les Allemands. D'une part, rétablir un canal de dialogue entre les Russes et les Ukrainiens, et d'autre part, remettre à l'agenda la question du conflit dans le Donbass, qui est en quelque sorte à l'origine des tensions, mais qui, au cours des dernières semaines, avait laissé la place à une discussion plus large sur les questions de sécurité européenne.
Que cherche en réalité Vladimir Poutine en massant ainsi plus de 100 000 soldats aux frontières ukrainiennes ? Il cherche à recréer une ceinture d'États satellites entre la Russie et l'Occident ?
Alors c'est toute la question de savoir quelles sont les intentions de Vladimir Poutine dans la crise actuelle. On peut effectivement penser qu'il y a une volonté de restauration de son influence, voire d'un contrôle sur les pays voisins. On peut aussi penser que son ambition est plus limitée et vise essentiellement à maintenir l'OTAN à distance des frontières de la Russie.
Il veut arrêter l'expansion de l'OTAN et même, si j'ai bien compris, revenir à la situation d'avant 1997, c'est-à-dire quand les pays baltes et la Pologne, par exemple, ne faisaient pas encore partie de l'Alliance Atlantique. On peut réellement revenir là-dessus ?
C'est effectivement les propositions que la Russie a mises sur la table. La proposition de revenir au dispositif qui existait avant 1997 et donc avant les élargissements de l'OTAN n'est pas réaliste. L'OTAN ne se retirera pas des pays baltes ou de la Pologne. La proposition qui vise à éviter des élargissements futurs de l'OTAN est difficile elle aussi à accepter dans la mesure où elle remet en cause un principe assez fondamental qui est celui du libre choix par les différents pays de leurs alliances et de leurs orientations géopolitiques. Mais c'est sans doute la question sur laquelle il y a peut-être moyen de discuter des modalités d'application de ce principe.
Face à ces exigences et face à ces menaces d'invasion quasi imminente, comment analysez-vous l'attitude des Européens jusqu'à présent ?
Alors, les Européens ont affiché une grande unité. En particulier dans l'idée que toute offensive russe vis-à-vis de l'Ukraine aurait des conséquences massives pour la Russie. Ils ont aussi affiché leur unité dans l'idée que toute discussion sur la sécurité de l'Europe devait se tenir avec les Européens à la table. Là où il y a davantage de divergences, c'est dans la définition de ce que seraient les intérêts des Européens dans cette crise.
C'est-à-dire ?
On a certains pays qui souhaitent être peut-être plus dans le refoulement de la Russie et le refus des demandes russes et dans une attitude de grande fermeté.
C'est-à-dire les pays les plus proches de la frontière, les pays baltes, la Pologne, la Suède ?
Oui, c'est principalement ces pays-là qui souhaitent aussi afficher un soutien très fort vis-à-vis de l'Ukraine, y compris d'ailleurs par des livraisons d'armement. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui, eux, souhaitent laisser une place à un dialogue.
Dont la France et l'Allemagne.
Dont la France et l'Allemagne, effectivement. Et qui, par conséquent, souhaitent peut-être moins s'engager dans des gestes qui pourraient être vus comme escalatoires.
Cette approche plus musclée, on va dire, celle des pays les plus proches de la frontière russe, elle n'est pas inintéressante, stratégiquement parlant.
Non, elle est tout à fait. Elle fait sens dans la mesure où elle permet d'afficher vis-à-vis de la Russie une grande fermeté, de signaler aussi à la Russie que une action militaire aurait un coût élevé. Mais c'est essentiellement symbolique parce que l'ampleur du dispositif russe déployé aux frontières de l'Ukraine fait qu'il serait, il n'est pas réaliste d'amener l'armée ukrainienne au même niveau. Que son éventuel adversaire.
Est-ce qu'en conséquence, il faut que nous autres, Français, Européens, on se prépare à une guerre de grande intensité, de grande ampleur, à moins de 3 heures de vol de nos frontières ?
Ça n'est pas forcément le seul scénario possible, mais c'est un des scénarios auxquels il faut effectivement qu'on se prépare.
Quelles en seraient les conséquences, très concrètes ?
Alors, il y aurait de très nombreuses conséquences, évidemment, en termes de sécurité et d'unité des Européens, puisqu'on peut, on peut supposer que les divergences qui commencent à se faire jour aujourd'hui continueraient à exister par la suite. Et puis, il y aurait des conséquences très concrètes en termes de mouvements de réfugiés, de prix de l'énergie, des conséquences probablement sur les marchés financiers également, des conséquences économiques dans l'hypothèse de sanctions vis-à-vis de la Russie et de contre-sanctions russes vis-à-vis des Européens. Donc, c'est évidemment un scénario qui est tout à fait effrayant quand on y réfléchit un peu.
Qui a le plus à perdre dans cette histoire, Marie Dumoulin ? Je vous pose cette question parce que quand on regarde en détail l'état de l'économie russe, elle est rongée par l'inflation, totalement dépendante du gaz et du pétrole. On peut douter de sa capacité à survivre à un tel conflit, non ?
C'est aussi une économie qui a de grandes réserves financières qui lui permettraient de tenir pendant quelque temps. Et c'est un État qui a une autre conception de ses intérêts et qui est prêt à accepter des sacrifices économiques pour la réalisation de certains objectifs politiques. Maintenant, concrètement, je pense que tout le monde a à perdre à une situation de ce type.
Donc vous voyez Vladimir Poutine se raisonner dans les jours ou les semaines qui viennent. On sait qu'il doit échanger au téléphone avec Emmanuel Macron vendredi. Est-ce que Vladimir Poutine peut revenir à la table des négociations très sérieusement ?
Il ne l'a jamais quitté et on peut aussi considérer que la pression exercée sur un plan militaire vise essentiellement à obtenir des résultats dans un processus diplomatique. C'est une méthode extrêmement brutale, c'est une méthode qui est difficilement acceptable, mais à ce stade, il n'est pas certain que les Russes souhaitent passer à l'action militaire.
Oui, parce que quand ils passent à l'action, en tout cas sous le règne de Vladimir Poutine, ils ne préviennent pas à l'avance, hein.
Ils ne préviennent jamais à l'avance et on peut supposer que dans la situation actuelle, plusieurs options sont sur la table, dont l'option militaire, mais l'option diplomatique l'est aussi.
Merci beaucoup Marie Dumoulin d'avoir répondu à nos questions ce matin, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Europe élargie au sein du Conseil européen des relations étrangères. C'est un think tank basé un peu partout en Europe. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Les gros rouleurs aidés par l'exécutif face à l'explosion des prix du carburant, le barème de l'indemnité kilométrique est relevé de 10%, mesure visant les ménages imposés déclarant leurs frais professionnels, ce qui devrait engendrer une réduction moyenne annuelle d'impôt de 150 euros. Stop au saccage d'EDF. Les quatre syndicats représentatifs du secteur de l'énergie appellent à la grève des salariés EDF. Aujourd'hui, ils protestent contre les mesures gouvernementale imposant aux fournisseurs d'augmenter de 20% le volume d'électricité vendu à prix réduit à ses concurrents. À l'Open d'Australie, Iga Swiatek vient de remporter à l'instant son quart de finale face à Kaya Kanepi en 3-7. La Polonaise rencontrera en demi-finale Danielle Collins qui a battu la Française Alizé Cornet cette nuit.
On termine avec votre partition, Omblin. C'était il y a 52 ans, le 26 janvier 1970. Simon and Garfunkel sortent l'album Bridge Over Troubled Water.
Et précisons-le tout de suite, Julien, ce cinquième disque sera le dernier enregistré ensemble. Paul Simon et Art Garfunkel se quittent sur un triomphe. 6 trophées lors des Grammy Awards, les récompenses musicales américaines, dont celui du meilleur album. 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
Retour en 1969, Simon et Garfunkel sont au sommet de leur carrière.
Ils occupent les premières places des classements, notamment avec la bande originale du film Le Lauréat. La chanson Mrs. Robinson est sur toutes les lèvres. Un nouveau disque est en chantier. Le duo se réinvente, navigue entre les genres et les colorations musicales, des influences country, un peu reggae, voire totalement sud-américaine.
La plupart des textes abordent les thèmes de l'amour, du sacrifice et de la loyauté.
Oui, les voix sont douces, les arrangements gracieux et pourtant, un fossé est en train de se creuser entre Simon et Garfunkel. La relation entre les deux copains d'enfance s'est fortement dégradée durant leur tournée précédente.
Après propos des séances d'enregistrement, Paul Simon raconte « C'était une aventure folle dont je suis fier, mais qui fut à la fois une expérience formidable et un enfer. »
Oui, il faut savoir que son partenaire de jeu, Art Garfunkel, partage son temps entre le studio et le plateau d'un tournage. Il a été engagé par Mike Nichols, le réalisateur du lauréat, pour jouer dans son prochain film Catch 22.
Les débuts cinématographiques de Garfunkel marquent d'ailleurs une rupture au sein de la mécanique du duo.
Oui, il n'apparaît pas, par exemple, sur le titre Baby Driver. La chanson The Boxer est la dernière conçue par le duo avec leurs deux voix superposées à l'ancienne.
La chanson qui donne son nom au disque Bridge Over Troubled Waters sonne comme le chant du cygne du duo new-yorkais. Paul Simon offre un dernier cadeau à son ami.
Il raconte l'avoir composé au cœur de l'été 1969 à Los Angeles. Il imaginait un gospel au départ et puis la chanson a évolué pour devenir, je le cite, quelque chose de très complexe, de noir et d'explosif. Au-dessus d'une eau agitée, Art Garfunkel chante tout seul. When you're down. When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes. Simon & Garfunkel est le pont le plus célèbre de l'histoire de la musique, Bridge Over Troubled Water. C'est également le nom du dernier album du duo paru le 26 janvier 1970.
Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec un fan de Metallica, Dimitri Pavlenko. Et tout de suite.
Europe Matin.
6h26, excellente matinée sur Europe 1.
Et on se dit à demain, 5h.
Oui,
c'est
avec plaisir, 5h.
Ouais. Bon, allez, à demain. Bonjour Dimitri.
Bon, vous n'êtes pas en retard, hein. 6h26, on a le temps.